18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est vous qui le dites et de retour après une semaine de vacances sur les ondes de Radio U. Nous sommes le lundi 15 mars, il est 18h, bienvenue à bord. Ce soir, nous allons parler contestation et solution. Alors, certes, pas forcément dans le même secteur. On s'intéressera à une super initiative de Colline Leboulaire. La jeune femme du Relecq Kerhuon a créé une boutique en ligne spécialisée dans les vêtements pour les femmes atteintes d'endométriose. Elle-même touchée par cette maladie, elle vous racontera son histoire en deuxième partie d'émission. On s'intéressera également à la mobilisation des intermittents du spectacle, mais aussi de l'emploi. C'est comme ça qu'ils se définissent, qui occupent en ce moment même le Quartz. Ce mouvement s'inscrit dans la continuité d'un mouvement national initié au théâtre de l'Odéon à Paris. Laurette est allée promener son micro là-bas, vous l'entendrez. Mais tout de suite, parlons également de mobilisation et de manifestation. Nous avons avec nous Erwan Seyss. Bonjour.
Bonjour Radio U.
Et bienvenue, j'espère que tu vas bien.
Très bien, merci pour cette invitation.
Eh bien avec plaisir, nous quand on entend manifestation jeune et manifestation étudiante, forcément on est là. Alors pour préciser ceux qui ne te connaîtraient pas parmi nos auditeurs, Erwan, tu es un jeune insoumis, mais tu viens ici avec la casquette de, entre guillemets, l'intersyndicale. Où il y a les jeunes insoumis, les jeunes communistes, les jeunes socialistes, il me semble qu'il y a aussi la CNT, Westup, l'Alternative UBO, est-ce que j'en oublie ?
Alors il y a également les jeunes de Bretagne, qui sont une association plus récente qui participe à cet appel, donc oui, on est un collectif assez large et assez divers qui s'inspire de l'appel national qui regroupe beaucoup d'associations. Et j'oublie évidemment l'UNL, les lycéens qui sont aussi mobilisés avec nous sur cette bataille.
Alors vous appelez les jeunes, hein, pas que les étudiants, tu l'as dit, les plus jeunes, les moins jeunes aussi j'imagine, hein, s'ils veulent venir à manifester demain pour leur avenir. Le rassemblement ça aura lieu à midi sur le parvis de la fac Ségalin. La manifestation se dirigera jusqu'à la permanence du député macroniste Jean-Charles Larsonneur. Le mot d'ordre, si j'ai bien compris, c'est génération sacrifiée, précarisée, révoltée et solidaire, c'est ça ?
Tout à fait. Eh bien, nous avons des revendications qui sont diverses et qui portent sur différents secteurs. Parce que comme tu l'as dit, le rassemblement n'est pas un rassemblement étudiant. C'est ce qu'on a envie, c'est de d'unir la jeunesse autour de cette revendication d'avenir, et de meilleures conditions de vie et d'études. Il y a par exemple pour les étudiants, la mesure qu'on a vraiment envie de mettre en avant, c'est un large plan d'aide d'urgence pour les étudiantes et les étudiants. On a justement besoin d'augmenter sensiblement les bourses et leurs critères d'attribution. Et on veut aussi évidemment rehausser les APL qui ont déjà été rabaissées de 5 euros. On s'en souvient au début du mandat d'Emmanuel Macron. Comme quoi, il fallait pas pleurer quand on avait 5 euros de moins de bourse. Bon, c'était quand même un petit peu gonflé. Et aujourd'hui, on est là pour demander à ce que ces APL soient rehaussées.
Donc le plan dont tu parles, avant de dire ça, je rappelle quand même que la mobilisation, la manifestation de demain, ça s'inscrit dans un mouvement national, à l'appel de l'UNEF, et c'est d'ailleurs l'UNEF, en tout cas, j'ai vu ça dans un média national, qui réclame un grand plan à 1,5 milliard d'euros. C'est ça l'idée, c'est vraiment de pousser pour avoir ça.
L'idée, c'est d'établir ce qu'on pourrait appeler un bouclier social ou un filet de sécurité pour faire en sorte que les jeunes qui ont perdu leur emploi pendant la crise sanitaire ne basculent pas dans l'extrême précarité. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ça qui menace. Quand on voit que les files d'attente augmentent mais jusqu'à perdre de vue devant les centres de distribution alimentaire, on se dit qu'il y a évidemment quelque chose d'ordre urgent. Et c'est ça, cette notion d'urgence qu'on a envie de mettre dans l'agenda politique et médiatique. C'est cette notion d'urgence.
Ouais, alors il y a eu quelques mesures prises par le gouvernement. Certains vont les appeler des mesurettes. Ça, c'est en fonction. Par exemple, je pense au chèque psy, au repas dans les rues à 1 euro, etc. tout ça, pour toi, pour vous, le collectif, c'est insuffisant?
Alors, il y a évidemment des mesures qu'il faut saluer. Le repas à 1 euro, c'est une bonne chose. Mais il faut quand même regarder l'agenda de ces mesures. C'est en septembre 2020 que le repas est à 1 euro pour les étudiants boursiers. Il est ouvert ensuite, donc le repas à 1 euro à tous les étudiants, en février 2021. Donc il s'écoule quand même 5-6 mois entre ces deux mesures. Donc pour un gouvernement qui se veut être celui du pragmatisme, de l'efficacité, on se rend bien compte que 6 mois pour élargir cette réforme, bon, c'est quoi? Il fallait peser le pour ou le contre? Il fallait prendre le temps de la réflexion? Bon, on se rend compte quand même que ce n'est pas sérieux. Et aussi, ce qui nous interpelle, c'est que il n'y a pas de prise d'initiative. On est obligé, par exemple, d'avoir des gens qui recueillent des témoignages d'étudiants qui sont au bord du gouffre, qu'il y ait des hashtags étudiants fantômes et autres, pour que, eh bien, d'un coup, la ministre se souvienne qu'elle doit s'occuper justement de l'enseignement supérieur.
Ouais, alors justement, je voulais en parler de cette question-là. On en a parlé pas mal, hein, quand même, du mal-être étudiant. Alors c'est venu tard, mais on en a parlé, des vagues de suicides, de dépression en tout genre. À Brest, c'est ce que tu constates, ce que vous constatez. Il y en a beaucoup aussi qui sont vraiment dans le mal-être.
Bah, écoutez, moi, à côté de mes études, j'ai la chance de pouvoir faire des tutorats à la fac, donc j'aide des étudiants de première et deuxième année à s'en sortir, ou à apprendre les mécanismes de méthode universitaire. Et donc, évidemment, ça donne lieu à des discussions sur la manière même de se représenter cette crise. Et ce dont on se rend compte d'une manière flagrante, c'est que la pédagogie à distance n'est pas possible. Ou en tout cas, elle n'est pas viable à longue durée. Mmh. Et ça se ressent dans le mal-être des gens. Dites-vous qu'il y a des étudiants qui, là, sont en première année et n'ont jamais vu d'amphithéâtre de leur vie. Mmh. Ce qui est quand même insensé, ce qui fait difficilement sens quand on aspire à faire des études universitaires.
Oui, c'est sûr, même si parfois en présentiel les amphithéâtres sont malheureusement bondés et les étudiants connaissent plus les marches que les strapontins.
Tout à fait.
Je voulais aussi revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des annonces de Frédéric Vidal et de son enquête sur l'islamo-gauchisme? Parce que moi, j'ai le sentiment, avant de finir de poser cette question, que c'est une manifestation d'un ras-le-bol généralisé. En fait, il y a le mal-être étudiant, il y a très peu de mesures, mais en fait, c'est ça, non? C'est un mal-être global sur le monde étudiant et le monde universitaire.
Oui, je pense qu'il y a un mal-être global et d'une manière aussi plus générale, il est aussi temps de déconfiner la colère sociale, et que ce soit dans tous les secteurs. On voit d'ailleurs que les intermittents du spectacle se sont mis en action et ont occupé le quartz et on les soutient tout à fait. On leur apporte notre soutien le plus clair. Pour ce qui est des étudiants, je pense que oui, il y a aussi un ras-le-bol et un sentiment de trop-plein, et notamment après cette phrase ahurissante de la ministre qui, dans un média d'extrême droite, va dire des choses d'extrême droite en l'occurrence. À savoir que la société et l'université est gangrénée par l'islamo-gauchisme.
Là-dessus, d'ailleurs, j'avais envie de lire une lettre à Frédéric Vidal. Donc, ça a été publié par Pinard Sélec sur les blogs de Mediapart. Pinard Sélec, c'est une sociologue militante antimilitariste, féministe, écrivaine turque qui vit en exil en France. Elle a obtenu d'ailleurs la nationalité française en 2017. Je vous lis, bon, ça va peut-être prendre quelques minutes, mais je vous lis quand même cette lettre et puis on en rediscute juste après, Erwan. Alors, lettre à Frédéric Vidal. Depuis vos dernières déclarations sur l'islamo-gauchisme, qu'elle met entre guillemets évidemment, je suis dans un cauchemar terrible. Votre discours réveille tout ce que j'ai vécu et tout ce que mes collègues en Turquie sont en train de vivre. Je vous demande de prêter attention à ma parole qui s'est forgée à travers une expérience très dure de la défense de la liberté, de la recherche et de l'autonomie de la production scientifique. Madame Vidal, vous vous souvenez de moi, l'enseignante, chercheur, exilée que vous aviez accueillie dans le cadre du programme PAUSE, P-A-U-S-E, à l'université Côte d'Azur quand vous étiez sa présidente. Mais nous nous sommes rencontrés la première fois le 30 septembre 2019 dans le cadre de la conférence de presse du programme PAUSE. C'est le programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil. En tant que ministre dans l'enseignement supérieur et de la recherche, vous souteniez ce programme. Je pense que vous le soutenez encore. Tant mieux, vous soutenez les enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses, qui ont fui la répression politique dans leur pays et qui ont besoin d'un espace de liberté pour continuer à poser des questions et à conduire leurs recherches. Depuis vos dernières déclarations sur l'islamo-gauchisme, toujours entre guillemets, je suis dans un cauchemar terrible. Votre discours réveille tout ce que j'ai vécu et tout ce que mes collègues en Turquie sont en train de vivre sous l'islamo-fascisme. Je pense que tout et toutes les scientifiques exilés qui sont aujourd'hui accueillis par le programme PAUSE sont entrés dans le même cauchemar, car elles et ils savent aussi très bien comment les libertés académiques se rétrécissent quand les pouvoirs politiques interviennent dans le champ scientifique avec la justification de la lutte contre le terrorisme. En général, c'est comme ça que ça se passe, en Turquie, en Chine, en Iran et aujourd'hui en France. J'ai envie de vous dire que si vous ne revenez pas publiquement sur vos propos ou si vous ne démissionnez pas, le cancer se diffusera et des scientifiques français et françaises prendront le chemin d'exil. Ne me dites pas qu'en France, ce n'est pas possible. Si, Madame Vidal, si. Vous le savez mieux que moi, le pétainisme n'est pas si vieux que ça. Rappelez-vous, dans les années 1940, il y avait beaucoup d'universitaires français exilés, refusant de se soumettre au fascisme. Vous vous souvenez peut-être, dans la conférence de presse de PAUSE, j'avais commencé mon intervention en disant ceci. Pour vous épargner un récit victimisant, et pour me distancier d'une vision intégrationniste imprégnée de colonialisme, j'avais pensé, d'abord, rappeler que chaque pays a besoin de passeurs des théories scientifiques. Surtout la France qui a de grandes difficultés de traduction. Elle a besoin de savants et de savantes qui se sont formés dans d'autres pays. De plus, accueillir les scientifiques qui ne sont pas soumis à l'autorité ne peut être qu'une richesse pour ceux et celles qui les accueillent. Je vous demande de prêter attention à ma parole qui s'est forgée à travers une expérience très dure de la défense de la liberté de la recherche et de l'autonomie de la production scientifique. Madame Vidal, essayez d'écrire des articles scientifiques avec votre casquette universitaire pour remettre en question les notions scientifiques et inscrivez-vous dans le débat collectif des chercheurs, chercheuses, mais surtout, cessez d'intervenir en mettant votre casquette politique. Sinon, vous allez mettre la machine infernale en marche et la machine du pouvoir peut aller plus loin que vous ne l'imaginez. Pinard Selek. Erwan, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, déjà, c'est une très belle lettre. Et ce qui me semble essentiel à souligner dès le départ, c'est, et tu le disais d'ailleurs en lisant la lettre, c'est en le, entre guillemets, de l'islamo-gauchisme. Mmh. Parce que c'est un terme à mettre entre guillemets. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé, le comité des présidents d'université, qui n'est pas non plus un comité d'excités d'extrême gauche, et qui dit, ce terme n'a pas de scientificité. Ça n'a pas de définition. Donc, quand la ministre va à la télévision pour poser ce mot, c'est-à-dire que c'est quand même un acte très fort politiquement. Elle n'est pas en train de proposer un débat scientifique quand elle dit ça. Elle dit clairement, on va faire la chasse à la chasse dans les facs pour voir qui fait des recherches qui nous plaisent et des recherches qui nous plaisent pas. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui était évoqué dans la lettre, c'est cet esprit du pétainisme qui était évoqué. Et moi, je m'inquiète quand j'entends le président de la République dire que voilà, le maréchal Pétain était un très grand général. Déjà, d'un point de vue historique, c'est très contestable. Moi, je ne le pense pas. Mmh. Et ensuite, il y a des références qu'on ferait peut-être mieux de se garder pour soi et pas de les étaler dans la presse, car on voit bien ce que ça fait. Là, depuis quelques jours, la ministre est en train d'aiguiser les poignards de l'extrême droite, et on voit bien que le débat public est en train de se ratatiner au fur et à mesure.
Et ça, au niveau des étudiants, comment tu le sens, comment vous le sentez là dans l'intersyndicale, c'est quelque chose qui vous a, je sais pas, énormément choqué, j'imagine, comme propos.
Ah, évidemment, c'est ce genre de propos, c'est ni fait ni à faire. Et entre nous, on trouvait essentiel de d'aligner ces mesures donc pour les étudiants, les lycéens et les jeunes en insertion professionnelle. On parle notamment du RSA pour les moins de 25 ans, qui est une mesure emblématique, mais il nous semblait aussi essentiel de revenir sur cette déchéance morale et intellectuelle qui est en train de se produire. C'est terrible, quoi. Je veux dire, dans ce genre de situation, une fois que la ministre a dit ça, il lui reste deux possibilités, soit démissionner, soit assumer. Et je pense qu'elle n'est pas du tout partie pour démissionner. Donc, les débats qui vont être menés à l'avenir, au final, on voit qu'ils ne portent sur rien. C'est-à-dire sur l'islamo-gauchisme, personne n'est capable d'en donner une définition.
Oui, certains comparaient ça à l'arrivée du terme judéo-bolchévique, etc., qui même à l'époque ne voulait rien dire.
Mais tout à fait, et ce terme était à l'époque aussi une manière de faire la chasse aux sorcières dans les universités. Donc là, on est, moi je pense qu'on est en, on est sur cette manière de, et puis en plus, quand elle dit islamo-gauchisme, donc de quelle gauche parle-t-elle ? On ne le sait pas. Et ça sert précisément à ça. C'est-à-dire que vous balancez une insulte qui est très abstraite et puis et au cadrage très flou pour pouvoir y mettre un petit peu qui vous voulez. Donc voilà, alors ça, un coup ça va être voilà, ça pourrait être les écologistes, ça pourrait être les insoumis, les communistes, d'autres militants, des militants associatifs, des syndicalistes, des enseignants-chercheurs qui mènent des recherches qui ne plaisent pas à la ministre par exemple.
Alors tu me le disais hors antenne, vous avez rencontré le député Jean-Charles Larsonneur qui ne sera malheureusement pas présent à Brest demain puisqu'il sera à Paris, donc vous n'aurez pas l'occasion de le voir demain après la manifestation. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Quelles revendications vous lui avez présentées? Tu l'évoquais juste avant, le RSA jeune, par exemple, enfin jeune, le RSA moins de 25 ans, ça en fait partie?
Oui, tout à fait. Donc nous avons rencontré le député Jean-Charles Larsonneur tout à l'heure, cet après-midi, et donc on a eu l'occasion de lui présenter nos revendications. Alors, bon, j'en ai déjà listé un certain nombre. On pourrait aussi évoquer, eh bien, l'abandon de Parcoursup que demandent les lycéens qui nous accompagnent. Et puis, évidemment, d'investir massivement dans des moyens d'orientation qui soient viables et qui ne créent pas des situations de stress et de panique qu'on connaît avec Parcoursup depuis déjà quelques années. Donc, bon, on a exposé ces mesures-là à Jean-Charles Larsonneur. Bon, il en a pris note, hein. On a essayé de, nous, ce qu'on voulait faire, c'est que les mesures qu'on lui a exposées fassent l'objet d'une question au gouvernement. Voilà, on a envie que Jean-Charles Larsonneur interpelle le gouvernement sur les mesures que nous lui avons présentées tout à l'heure, et aussi sur, eh bien, cet islamo-gauchisme qui nous a révolté. Bon, lui nous a dit que ce n'était pas des mots qu'il affectionnait. Donc bon, voilà, on en est très content, mais on en serait encore plus content qu'il le signale à son gouvernement.
Est-ce qu'il a pris l'engagement de poser une question à son gouvernement ou pas du tout ?
Eh bien, quand on lui a demandé s'il voulait faire une, s'il était d'accord de mener une question au gouvernement sur ces sujets-là, il ne nous a pas dit oui, il ne nous a pas dit non non plus. Donc maintenant, je considère que la balle est dans son camp.
Ouais, vous avez toujours l'espoir. Peut-être une toute dernière question pour revenir à cette idée de ras-le-bol général, parce qu'en fait vous avez énormément de revendications sur plein de sujets. C'est pour ça que vous avez réussi, j'ai presque envie de dire pour une fois, à vous fédérer tous ensemble. C'est quand même très rare de voir des jeunes insoumis avec des jeunes socialistes, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de personnes dans ce mouvement.
Oui, alors c'est un collectif qui est large, qui est composé de plusieurs organisations, parce que bon, il y a un côté, on essaye de fédérer le plus largement possible, mais j'ai envie de vous dire que l'intérêt, il n'est pas vraiment là à additionner des sigles et des associations, même si évidemment que c'est essentiel de multiplier les acteurs. Mais je pense que l'essentiel, c'est surtout que les gens s'emparent eux-mêmes de ce mouvement-là, qu'ils nous rejoignent le plus nombreux possible demain à midi sur le parvis de la Fac de Lettres.
Bien, merci beaucoup, Erwan Seyss. Le rendez-vous est pris, et puis on espère pour vous qu'il y ait suffisamment de monde demain.
Merci, merci Radio U.
Merci. Still red, maybe I was in a dream.
golden throne, the sweetest sin, queen bee in the honeycomb.
C'était Honey, un titre des Gentlemen's Dub Club avec Holly Cook, un extrait du nouvel album des Anglais qui sortira le 19 mars et qui s'intitule Down to Earth. Vous écoutez, c'est vous qui le dites, sur Radio U. En première partie d'émission, on recevait Erwan Seyss pour parler de la manifestation de demain organisée par un collectif énorme d'ailleurs de jeunes et d'étudiants pour défendre leur avenir. Continuons à parler de mobilisation. Cette fois-ci, Laurette vous emmène dans le Quartz occupé. Évidemment, c'est à Brest. Le Quartz a rejoint depuis jeudi dernier la liste des lieux de spectacle occupés en France à la suite du théâtre de l'Odéon. Prolongation de l'année blanche, retrait de la réforme assurance chômage, le mouvement des professionnels du spectacle continue d'enfler. Max et Alexis, régisseurs dans le spectacle vivant, nous expliquent ses revendications.
Max, il n'a pas fait, je crois, aujourd'hui. Ah, you,
non, moi, j'ai fait...
J'ai fait l'international.
Il y a déjà eu des manifestations nationales auparavant, dont la semaine dernière. Et suite à cette manifestation, il y a eu la prise de l'Odéon à Paris, dont vous avez dû entendre parler.
Ouais.
Donc, ils sont déjà depuis quelques jours là-bas. Et il y a d'autres villes qui ont pris, pareil, des symboles culturels en soutien à l'Odéon. Et ça a fait boule de neige et ça continue à faire boule de neige. Et il est important qu'à Brest... on les soutienne et que on propose de la réaction aux autres villes aussi, quoi. L'idée, c'est que on maintienne la pression, qu'on l'accentue, et on espère qu'il y aura de plus en plus de villes à continuer dans ce sens-là, et que une grosse pression sur le gouvernement, quoi. Donc on va continuer tant qu'on peut. Ouais.
Le but, c'est qu'on nous rende la culture.
Quoi. Exactement.
Alors la culture, mais pas que. Voilà.
Tu vas pouvoir.
Ouais, on va rebondir. Dans les revendications, il y a notamment l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, donc qui rentre en action au mois de juillet, voilà, un peu en force, et du coup qui va impacter, d'après les chiffres, 2 millions de personnes, 2 millions de précaires, des gens qui sont déjà en difficulté, notamment les intermittents de l'emploi. Donc voilà, ça c'est une des revendications. Et puis nous, en tant qu'intermittents de l'emploi, mais intermittents du spectacle, on est concernés par l'année blanche, donc on demande aussi une reconduction de l'année blanche, puisqu'on nous empêche de travailler. Parce qu'il n'y a rien qui prouve aujourd'hui qu'un supermarché, une galerie commerciale, c'est moins contaminant qu'un théâtre. Donc voilà, c'est un choix politique de fermer les théâtres. Donc du coup, il faut aussi qu'ils assument à cet endroit-là, quoi. Or, ils font l'inverse, puisqu'ils font, ils attaquent, donc on n'a plus d'outils de travail et ils vont attaquer sur l'assurance chômage. Donc ça, ça nous concerne. Mais derrière ça, il y a 2 millions de personnes qui peut-être ne sont même pas au courant, ne sont pas encore impactées. Et une fois que ça sera en place, il y a rarement de machine arrière. Voilà. Et il y a aussi le maintien donc des droits pour tout ce qui est arrêt maladie. Et les congés maladie et les congés maternité aussi, qui sont impactés forcément de fait. Voilà. Donc ça, c'est une revendication qui est aussi sur le côté. Mais ils savent ce qu'ils ont à faire, quelque part. Ils vont abandonner cette réforme de l'assurance chômage. Qui en soi, c'est même pas au gouvernement de prendre ce type de décision, puisque... ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'ils ont mis un peu qu'ils ont pris le pouvoir à cet endroit-là. C'est les cotisations des travailleurs. Donc normalement, c'est les syndicats qui gèrent ça. Voilà. Et là, depuis 2015, ça y est, ils font partie de. Sauf qu'ils n'ont pas injecté d'argent. En fait, ils sont plus ou moins. Ils ont pris cette boîte pour faire bon, on va financer comme ça, quoi. Donc voilà. Et c'est totalement injuste. Et encore plus dans une période comme ça où il y a suffisamment de précaires et de difficultés pour ne pas en rajouter une couche de plus, quoi, sur 2 millions de personnes.
Voilà. Du coup, ça, c'est le communiqué de presse qu'on a fait hier.
Ouais,
mais vous l'avez peut-être vu sur le net déjà.
On comprend qu'il y a une crise sanitaire, que c'est pas simple à gérer, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité. Tu vois, aucune perspective. Et ça peut pas continuer, que ce soit pour nous, pour les restaurateurs, pour... Enfin, quoi. On n'est pas les seuls impactés, c'est sûr. Hein. On est obligé de se défendre. Effectivement, même s'il y a du travail, si ça reprend là, pour 80% des intermittents, on n'aura pas le temps de refaire le statut. Moi, je prends mon exemple. Moi, depuis mars 2020, je vais avoir 50 heures au compteur, quoi. Donc, il m'en reste plus de 450 à faire. Et c'est pas avec deux ou trois festivals que je vais pouvoir le faire. Donc, au mois d'août, l'année blanche, elle est terminée. Ben, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un paquet dans ce cas-là, quoi. Donc, c'est pas le fait qu'on reprenne le travail là qui va nous sauver.
Voilà.
Donc il nous faut une prolongation. Voilà, c'est tout.
Voilà, une prolongation et aussi un regard sur les autres intermittents de l'emploi, pour le coup. Parce qu'il y a aussi ça. Bon, après, on a la possibilité dans le spectacle de se faire entendre et on va dire un peu plus que d'autres secteurs. Voilà, bon, après, c'est l'éternelle lutte, l'intermittence du spectacle et qui est sans cesse montré du doigt et attaqué. En tout cas, là, c'est les outils de travail qui sont carrément à l'arrêt, quoi. Et depuis un an, maintenant, ça fait un an.
Ouais.
Donc, effectivement, il y a des collègues qui n'ont pas bossé depuis un an.
Et ça fait long.
Ça fait long.
On a été très bien accueillis au Quartz. Ils soutiennent, il n'y a pas de souci.
Voilà, et au Quartz, c'est au niveau de la ville. Il y a même un soutien, quelque part. Parce que ça met une pression aussi, donc ça sert le lieu quelque part, puisqu'ils ont eux aussi envie de réouvrir. Aujourd'hui c'est bien, et suivant ce qui sera annoncé par la suite, ça pourrait devenir moins bien. Parce que dans la liste des revendications, il y a quand même des choses qui nous rassemblent, et puis des endroits où, juste ce que je veux, je me retire de la lutte, quoi. Là, on a mis en place des réunions publiques devant, sur le parvis du Quartz. Pour ça, c'est toujours par rapport à ce protocole Covid. Donc du coup à 13h tous les jours. Voilà, là, il y a des prises de parole possibles et c'est ok, après dedans aussi. Hein. Enfin, chacun s'exprime. Et on essaye de maintenir une bonne entente et la démocratie, quoi. Enfin, que chacun.
Alors, quand même, les gens qui se sentent concernés, de toute façon, évidemment, qui sont bienvenus. Quoi. On fait quelques relais entre nous dans les réseaux qu'on connaît, qu'on active. Mais comme on disait. On parle de la culture, de la précarité, et tous les gens concernés, évidemment, sont bienvenus. Voilà.
Et un grand merci à Laurette pour ce reportage. Le Quartz sera occupé jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que la culture reprenne ses droits. Comme vous l'avez entendu, à 13h, tous les jours, des prises de parole ont lieu devant le Quartz. Après s'être intéressé à la manif étudiante de demain et au Quartz occupé, donc, nous allons parler de solutions et nous avons joint à distance, Colline Leboulaire. On vous laisse écouter ça. Colline Leboulaire, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as 28 ans, tu es fondatrice de la boutique en ligne EndoCloset, basée au Relais Kerruon. Alors, endo, c'est pour l'endométriose, et closet pour placard en anglais, ou dressing, c'est ça ?
C'est exactement ça, oui.
Alors, l'endométriose, c'est une maladie complexe qui peut être invalidante. Elle est responsable de douleurs pelviennes invalidantes, on l'a dit, et aussi d'infertilité. Ces symptômes ont un impact majeur sur la qualité de vie des personnes atteintes, avec un retentissement majeur sur leur vie personnelle, voire conjugale, mais aussi professionnelle et sociale. Ça, c'est ce qu'on trouve sur le site endofrance.org, qui renseigne plutôt bien sur cette maladie. Toi-même, tu es touchée, et si j'ai bien compris, ça a mis plus de 10 ans à être détecté, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Moi, dès mes premières règles, j'ai eu des douleurs. S'en est suivi après de l'absentéisme scolaire. J'avais des difficultés lors de périodes de règles à aller à l'école, même à aller faire. Je faisais du handball, donc j'avais du mal à aller à faire mes matchs. Même des sorties entre copines, etc. Enfin, en fait, j'étais couchée. Donc, j'ai été voir plusieurs médecins. Effectivement, c'est si jeune, les médecins ne se disaient pas que c'était possible. À 18 ans, je me souviens être allée voir un médecin, enfin un gynécologue, qui m'a rigolé au nez, hein, en me disant non, mais c'est pas possible. 18 ans, vous êtes trop jeune pour avoir de l'endométriose. C'est vous qui prenez mal vos médicaments, et c'est tout. Elle m'a renvoyée comme ça. À savoir que quand on a du mal à suivre ses études, qu'on a du mal à même des fois que ça nous empêche d'avoir une vie sociale, etc., se prendre ça, c'est assez compliqué. Donc après, heureusement, je suis tombée sur un bon gynécologue qui a réussi à tout de suite mettre les mots. Moi, à savoir que il a fallu opérer pour mettre un mot vraiment sur la maladie, parce que ça ne se voyait pas aux différents IRM, échographies. En fait, c'est ça le problème aussi, c'est que des fois, ça peut ne pas se voir, ou alors le matériel ou les médecins ne sont pas spécialistes. Où le matériel n'est pas assez à la pointe technologique, et du coup on passe à côté de signes. Donc c'est ça le problème aussi de l'endométriose, une grosse errance médicale qui n'est pas rare, en fait. Ça arrive à énormément de personnes, et en attendant la maladie progresse, et en attendant on est aussi mentalement perdu.
Ouais, c'est ça. Alors une grosse errance médicale, mais pas que. En fait, la maladie est pas connue ou méconnue, et donc en dehors du milieu médical, c'est un peu compliqué de l'expliquer, j'imagine.
Oui, alors ça va de mieux en mieux, heureusement. C'est vrai que moi, je me souviens. C'était il y a combien de temps, du coup? C'était il y a plus de 10 ans, commencer à trouver des petits mots par-ci par-là, endométriose. Mais à cette époque-là, c'était vraiment, vraiment pas connu. C'est moi qui avais trouvé toute seule avec mes parents ce mot-là. Ma médecin traitant, m'écoutait aussi, mais je me souviens avoir découvert cette maladie et m'être dit, mais c'est sûr, c'est ça. Moi, j'en étais persuadée. Comme c'était pas du tout connu, on se demande un petit peu ce que c'est, etc. Maintenant, ça évolue parce qu'on en parle, mais c'est pas nouveau, l'endométriose. Hein, c'est les premiers signes, enfin sur les autopsies, etc. Alors j'ai pas de chiffre, enfin j'ai pas la date exacte, mais c'est dans les années 1800 et quelques. Donc c'est pas nouveau, ça a toujours été. Mais comme c'est ça touche aux règles, qui est un tabou, qui est quelque chose, on voit bien dans les pubs, hein, quand les règles sont de couleur bleue. Enfin bref, c'est un autre débat, ouais. Mais c'est quelque chose qui est très tabou. Donc forcément, on n'en parle pas, donc du coup, il y a moins d'informations, donc on passe à côté de beaucoup de choses, en fait.
Et justement, avant de parler vraiment d'EndoCloset, comment ça se passait pour toi à ce moment-là, que ce soit, je ne sais pas, comment l'expliquer aux profs, comment l'expliquer au sport, et comment ça se passait, quels étaient les retours ?
Alors moi, heureusement que je suis quelqu'un d'assez franche. Je suis une personne franche. Donc du coup, je suis assez à l'aise. Donc heureusement, ça c'est vraiment quelque chose qui, je pense, m'a aidée, parce que moi, c'est-à-dire qu'une fois, je me souviens, un prof m'a fait la réflexion. Oui, mais vous êtes absente à chaque devoir. Je lui ai dit, oui, mais vous mettez le devoir à chaque fois que j'ai mes règles. Vous mettez un devoir tous les mois. J'ai dit, je suis désolée, moi, je suis malade quand j'ai mes règles, je peux pas venir. J'ai toujours été franche, même avec les gens, parce que j'étais toujours avec mes médicaments au collège. Je prenais mes médicaments en douce, etc. Donc, c'est vrai que les gens se posaient des questions. J'ai toujours été franche, même au niveau du sport, quand je pouvais pas aller jouer ou etc. Le fait d'être franche et de même d'être un peu du coup rentre dedans presque, les gens, ils se disent ah oui ok, ils sont moins dans... Ils vont moins se permettre de dire les choses. Donc, j'ai toujours décidé d'être comme ça. Après, c'est plus compliqué dans le milieu professionnel. Parce que ça va dans la vie sociale, ça va quand c'est l'école. Mais dans le milieu professionnel, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment ça s'est passé pour toi avant, si j'ai bien compris, tu étais esthéticienne, c'est ça?
Oui.
Et du coup, comment ça s'est passé pour toi, ton début de vie professionnelle?
Alors déjà, quand j'ai fait mon apprentissage, donc mon apprentissage ça a été très compliqué. La fin de mon apprentissage, j'ai eu vraiment parce que l'endométriose c'est par vague en fait. Il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où ça va moins bien. Sur la fin de mes études d'esthéticienne, j'ai eu un gros coup de moins bien, donc je n'ai pas pu terminer. Donc j'étais en arrêt, mais j'ai pas pu terminer le contrat. Ça a été très compliqué du coup. Donc ça s'est terminé. Et c'est vrai que j'ai eu un autre emploi qui s'est très mal passé parce que j'étais franche pourtant, hein, les gens se rendent pas compte. On m'avait demandé d'en faire plus. J'avais demandé un mi-temps en fait, et on m'avait demandé d'en faire plus que mon mi-temps pendant une longue période. Et au bout d'un moment, en fait, ça n'a plus fonctionné. Après, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que avec la situation sanitaire, le télétravail s'est vraiment développé. C'est devenu quelque chose de courant parce que moi, il y a 2 ans, quand je parlais d'avoir du télétravail, quand j'en parlais avec mes conseillers, etc., on me disait oui, mais bon, vous savez, le télétravail, donc. Bon, pour ça, je suis assez optimiste parce que je suis persuadée que le télétravail pourrait permettre à beaucoup de femmes atteintes d'endométriose d'avoir une carrière épanouie, du coup aussi d'avoir une vie aussi plus simple parce qu'en fait, quand on a le salaire qui en pâtit, quand on a le moral qui en pâtit, quand on se fatigue à forcer, parce que plus on force, plus on se fatigue, c'est un cercle vicieux. Et aussi, du coup, avoir un patron qui sera, si le patron est d'accord avec le télétravail, il aura un employé qui est beaucoup plus productif. Donc lui, il sera gagnant aussi. Donc moi, je reste persuadée que le télétravail est une bonne option parce que le télétravail, c'est pas être tout le temps en télétravail. Moi, je sais que j'aurais besoin de peut-être 2-3 jours par mois d'être en télétravail. Je pense que c'est largement faisable quand on voit maintenant ce qui se passe. Alors, il y a des métiers, c'est plus simple que d'autres. Moi, je sais que l'esthétique, le télétravail, c'est simple, c'est non.
Oui,
donc c'est pour ça
sûr.
Que j'ai décidé de me reconvertir pour me mettre toutes les chances de mon côté pour trouver un emploi parce que j'étais frustrée, je suis assez ambitieuse et du coup je voyais pas du tout comment je pouvais évoluer en fait avec l'endométriose dans le milieu de l'esthétique.
Et donc l'emploi, tu l'as carrément créé en montant ta boutique en ligne, Endo Closet. Du coup, si je comprends bien, à la base, ça répondait à tes propres besoins, que ce soit sur le côté vestimentaire pour être à l'aise, le côté télétravail, mais j'imagine que quand on lance son entreprise, on fait aussi un business plan, des petites études de marché, et donc que t'es franchement pas la seule à avoir ces besoins-là, notamment vestimentaires.
Oui, alors à savoir que c'est donc Endo Closet, l'auto-entrepreneuriat, je le fais à côté. Je fais mes études, j'ai repris mes études. Donc là, je fais un BTS et je veux continuer à prendre en bachelor. Donc c'est vraiment un à côté, c'est un plus que j'ai décidé de faire pour moi de base pour cette aventure qu'est l'entrepreneuriat, mais surtout en fait et en priorité parce que je voyais qu'il y avait une énorme demande en fait. Je suis sur pas mal de groupes d'endométriose en fait. Quand on m'a diagnostiqué, j'ai toujours voulu être active en fait. Parce que moi, comme je le dis, ça a été 10 ans d'errance médicale. Si j'avais eu au lycée ou au collège une intervenante qui était venue m'expliquer, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, j'ai toujours voulu m'investir et être active dans cette cause. Je me suis rapprochée de groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook que je tiens avec 2 autres personnes qui s'appelle Endométriose Bretagne. C'est un groupe privé. C'est pour trouver du soutien, se confier quand on va pas bien et aussi se donner des bonnes astuces, des professionnels dans le coin, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sur tous ces groupes, on était, enfin moi, déjà, je n'arrivais plus à m'habiller. Et je me rendais compte que c'était le cas d'énormément de femmes, en fait, parce que le ventre qui gonfle, les douleurs, quand on a un élastique qui passe sur le ventre, etc. Il y en a beaucoup qui sont à qui ont des problèmes de fertilité et on leur disait ah félicitations, alors qu'en fait c'était juste les douleurs qui faisaient gonfler le ventre. Je me suis dit mais c'est pas possible que ça arrive, ça. Je voulais plus en fait que des femmes se sentent pas bien dans leur vêtement, qu'elles prennent ce genre de réflexion, parce que l'endométriose est quelque chose qui fait déjà voilà, qui touche à la féminité, qui touche à la confiance en soi. Et le shopping, c'est censé être un plaisir. Et en fait, c'est tout l'inverse pour nous. Donc, je voulais en fait que ça redevienne un plaisir et que ça nous aide à reprendre confiance en nous.
Eh ben, ça a l'air de bien marcher pour l'instant, parce qu'on n'est franchement pas les seuls ici à Radio U à vouloir en savoir un petit peu plus. Oui. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse, que ce soit le Télégramme, Ouest France ou d'autres radios. Et du coup, donc même si c'est pas une finalité en soi, peut-être qu'un jour, c'est tout le malheur que je te souhaite, hein, tu arriveras à en vivre de cette boutique. Oui. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment tu sélectionne ses habits, parce que de ce que j'ai compris, c'est pas des créations originales.
Non, au début, je m'étais posé la question, et c'est vrai que bon, voilà, comme j'avais déjà décidé de reprendre mes études, déjà que c'est du sport, je pense que si j'avais créé, ça aurait été même pas possible d'allier les deux. Donc j'ai décidé en fait d'aller à Paris voir des fournisseurs. Je leur ai expliqué ma spécificité en fait, donc voilà, c'est la première fois pour eux qu'ils entendaient ça, donc c'était intéressant. Et puis moi, c'était un moyen aussi de faire de l'information, hein. Et donc je leur ai expliqué voilà que je voulais des jeans qui ne serrent pas le ventre. Donc j'ai trouvé un fournisseur qui fait des jeans super élastique, donc avec un haut pourcentage d'élastane qui vraiment ne va pas serrer le ventre. Donc ça, c'est un jean normal avec boutons et braguettes. Et je propose aussi un jean pour les jours de crise. Donc c'est un jean en fait qui ne va pas avoir de boutons ni de braguettes, mais juste en fait un tissu jersey taille haute. Et en fait comme ça, si le ventre gonfle, le tissu en fait va épouser la forme du ventre et va pas du tout serrer. On a aucune pression, aucune douleur supplémentaire en fait due à un vêtement trop serré. Après je propose différentes choses. Je propose des vestes pour cacher aussi, des blouses avec des coupes en fait au niveau de la poitrine pour éviter pareil qu'il y ait un élastique sur le ventre. Et les robes, ça va être le même système également.
Et ça a été compliqué de trouver ces fournisseurs-là ou finalement, ça s'est bien fait?
Ça s'est bien fait puisque j'avais bien étudié. Enfin, moi, depuis le temps que j'ai du mal en fait à m'habiller, je savais à peu près les coupes que je voulais. Donc, ça a été assez clair. Après voilà, pour les jeans, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il fallait vraiment trouver le jean qui va pas serrer le jean, parce que je voulais proposer aussi des jeans normaux, mais voilà, il fallait absolument pas qu'on ait une pression au niveau du bouton. Donc c'est ça qui a été le plus compliqué, mais maintenant que je l'ai trouvé, je reste là-dessus. Et sinon le reste, ça a été assez simple. J'ai bien été aidée par les fournisseurs, donc ils étaient très à l'écoute, donc c'était très agréable.
Et puis j'ai évidemment, hein, je suis curieux, donc je suis allé faire un petit tour sur le site internet pour voir un petit peu les prix pratiqués, parce que souvent dès qu'on est dans du vêtement un peu dit spécialisé, ça peut monter très vite, et sur EndoCloset pas du tout. C'est très abordable. J'imagine que c'est un choix aussi délibéré de ta part.
Bah oui, parce qu'en fait voilà, enfin qui mieux qu'une personne atteinte d'endométriose pour bien proposer. Voilà, moi je le sais, quand on a des arrêts, le salaire en pâtit. Quand on a atteinte d'endométriose, on met beaucoup d'argent dans les médecines alternatives, donc que ce soit l'acupuncteur, l'ostéopathe, même les gynécologues des fois qui prennent des honoraires supplémentaires. Donc du coup, j'étais obligée en fait de faire quelque chose d'abordable. Je voulais pas qu'elles aient à choisir entre leur séance d'ostéo qui va les soulager et prendre un jean qui pourrait les aider quand elles sont en douleur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de faire des prix abordables. En plus, dernièrement, j'ai réussi à trouver un fournisseur français. Ça me tenait à cœur aussi de proposer du Made in France. J'ai pas pu le faire dès le départ parce que c'était beaucoup trop onéreux ce que j'avais trouvé. Et comme je sais que ça tient voilà, de plus en plus à cœur, voilà, j'ai trouvé dernièrement un fournisseur français abordable avec des coupes adaptées. Donc ça, c'était vraiment top.
Donc Colline, tu donnes énormément de ta personne pour la boutique en ligne EndoCloset que tu as créée. T'es même modèle. En fait, c'est toi qu'on voit sur les photos qui justement montre toute la collection.
Oui, comme ça, je voulais caser un repère parce que je me dis si jamais, c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui reviennent. Voilà, elles se sont identifiées, elles ont choisi les vêtements par rapport à mes informations. Je donne ma taille, mon poids, toutes mes mensurations pour qu'après elles puissent comparer. Pareil pour les vêtements, je mesure à chaque fois les tours des vêtements, etc., poitrine, ventre, longueur, pour qu'elles puissent vraiment choisir. C'est ça qui manque aussi des fois sur certains sites. On a juste, je fais tant de centimètres. Je pèse tant et je porte telle taille. Et on ne sait pas si ça va passer au niveau des hanches, on ne sait pas si ça va passer au niveau des ventres. Donc je voulais vraiment qu'elles aient toutes les informations et que moi, en fait, elles sachent que moi, qui ai ce souci-là, qui ai un ventre qui gonfle, elles puissent se dire, bon, ok, ça passe. Parce que c'est vrai que si j'avais pris quelqu'un qui n'a pas ce problème-là, c'était pas en rapport, quoi.
Et pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. J'ai vu que tu avais du soutien, donc on l'a évoqué tout à l'heure dans la presse, mais pas que la presse entre guillemets classique. J'ai vu qu'il y a aussi une youtubeuse qui parle de toi, etc. Est-ce que il y a cet aspect, j'ai presque envie de dire, de communauté aussi qui te soutient?
Oui, j'ai vu. C'est vrai que j'ai créé ça en octobre et en octobre, c'était tout nouveau en fait et j'ai eu des retours très très positifs sur en fait mince, on n'y a pas pensé mais c'est une super idée et il y en a beaucoup. Hein, j'ai beaucoup de messages, c'est incroyable parce que je l'ai fait vraiment pour aider. Comme je le dis, c'est vraiment parce que moi j'en ai tellement souffert que je voulais plus que ça arrive. Et quand je reçois des messages pour me dire oh, ça fait 10 ans que j'ai pas mis de jean, grâce à vous j'ai enfin remis un jean. Il y en a une qui m'a dit tu as changé ma vie, c'est incroyable, moi, parce que je le fais tellement pour aider. Et quand je me dis, elle, l'effet que ça a sur elle, je me dis, c'est juste magnifique, quoi. Et c'est vrai que, on est toutes dans le même bateau, on est toutes en souffrance, on a toutes, les mêmes soucis, à des degrés différents, bien sûr, mais on se retrouve toutes par rapport à ça. Donc, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait une entraide et ça a été très bien accueilli.
Et j'imagine que si ça a été bien accueilli, c'est que ça marche aussi, que économiquement c'est viable. Moi, je me demandais d'où viennent les commandes un peu de partout en France, finalement, vu que EndoCloset, c'est la première boutique en ligne spécialisée.
Oui, alors ça vient de toute la France. J'aime bien voir à chaque fois d'où ça vient. Donc ça vient de Bretagne. Donc j'en ai qui sont très contentes de se dire, oh, en plus c'est breton comme on est chauvin. Et puis c'est du sud, de l'est. Voilà, c'est vraiment de Paris, du nord. Enfin, il y a vraiment partout. C'est vraiment partout.
Et en tout cas, merci beaucoup, Colline Le Boulaire, pour cette super initiative. Donc EndoCloset. Peut-être que tu peux rappeler le site internet et puis où on peut te suivre, parce que tu fais, de ce que j'ai compris, la promotion aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram.
Oui, alors mon site c'est www.endocloset.fr et je suis présente sur Instagram et sur Facebook et je mets toutes les actualités, les nouveautés. Ça permet d'être bien au courant dès qu'il y a une collection, des nouveaux articles qui sortent.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis, évidemment, on invite nos auditeurs à te suivre. Merci encore.
Merci beaucoup.
Pas le temps pour les palabres quand il s'agit d'agir. J'ai l'humeur d'un avatar, je reste fidèle à mes principes. L'attention est égoïste, m'enivre car je suis égoïste. Oui, j'en veux toujours plus car sincèrement je le mérite. Je suis le nonchalant ou la nonchance est un indice. La définition se fait toujours au choix d'un sacrifice. Prendre part quand la malédiction ça passe est un délice. Mon côté sombre est découvert, je gagne le précipice. J'existe car il était temps que je me décide. Ça oui, je ne peux me résoudre à avoir gagné l'ennui. Je me fie, à demain tout ira mieux qu'on se le dise. Artiste, je le suis quand je laisse la place à Joachi. Un pour tous et puis tous pour moi. Pas d'égalité dans le partage, donc fuck la règle 3. La trahison devient monnaie courante dans les couloirs. Acculé dans la partie, la meilleure défense c'est l'attaque. Non, 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 je ne suis pas énervé. Ce que je fais ne fait que commencer. En peu de temps, c'est prêt à consommer. Il se peut que ça soit mal digéré. Non, 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 je ne suis pas énervé. Ce que je fais ne fait que commencer. En peu de temps, c'est prêt à consommer. Il se peut que ça soit mal digéré. J'en ai assez de cette fausse modestie. Je suis le bon, je suis le seul, je suis le vrai ensemble, je suis choisi. De suite l'ambiance crispe, m'appelle à me justifier. Mais cette confiture de bons sentiments n'est plus tolérée. Ce que je fais, c'est pour moi avant tout ça, c'est l'idée. Tu ne sais pas de quoi ma vie est faite si t'es pas impliqué. Vouloir plaire à tout le monde, c'est ne plaire qu'aux hypocrites. Je ne vais pas me faire que des amis avec cette vérité. Je suis tranquille, serein, je n'ai pas peur, j'ai embarqué. Y'a ramassé de pur, je n'ai aucune chance de me débarquer. J'ai serré les dents, toléré autant d'imbécilité. Je pourrais écrire un bouquin, les chroniques et cerveler. Être un bosseur, que puis-je faire d'autre? Pas assez misogyne pour les codes demandés. Je reste insatisfait, jure que par le concret, si les mots ont le pouvoir, les actes gagneraient.
Non, 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 je ne suis pas énervé. Ce que je fais ne fait que commencer. En peu de temps, c'est prêt à consommer. Il se peut que ça soit mal digéré. Non, 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 je ne suis pas énervé. Ce que je fais ne fait que commencer. En peu de temps, c'est prêt à consommer. Il se peut que ça soit mal digéré.
Vous êtes toujours branchés sur le 101.1 ou peut-être que vous nous écoutez aussi sur Internet. Dans tous les cas, vous écoutez Radio U et entre 18h et 19h, c'est la presque quotidienne. C'est vous qui le dites. À l'instant, vous écoutiez Non Non, un titre de Le Jouage et Ersatz. Avant de se quitter, nous vous proposons un reportage de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. C'est sur l'alimentation. Aujourd'hui, premier épisode de la saison 2 de la série L'alimentation autrement, c'est un reportage de Romain de Syllabe.
On s'entraide vraiment en fait ici, c'est vraiment basé sur vraiment l'entraide et le respect en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup en fait.
L'alimentation autrement.
C'est même pas le fait d'avoir besoin d'être occupé, c'est le fait de rassurer, genre on est encore une humanité qui existe, pas tout seul dans son appartement.
L'alimentation autrement, une collection de reportages à la rencontre des acteurs et actrices de l'alimentation saine et durable en Bretagne.
Comment garantir l'accès à une alimentation saine pour tout le monde? L'insécurité alimentaire, c'est une réalité en France, accentuée par la crise sanitaire. Combattre la précarité alimentaire, c'est agir de façon concrète sur le territoire, au plus près des personnes, sans oublier la dimension humaine et solidaire. À l'image de l'association Cœur Résistant, qui anime le village alimentaire à Rennes.
J'ai commencé en tant que bénéficiaire, et à peu près au bout de 2 mois, j'ai proposé d'être bénévole. Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai vécu un petit peu de temps à la rue, donc j'aime bien aider les gens, en fait. C'est comme ça, c'est chez moi, en fait. J'adore aider les gens, en fait. Donc c'est pour ça, en fait, que je donne de mon temps, en fait, pour... Vu que j'ai connu un peu comment c'est dans la rue, je sais que les gens ont besoin qu'on leur donne à manger gratuitement, donc c'est pour ça que je le fais, en fait. Ça m'a vraiment montré, en fait, que les gens étaient vraiment dans le besoin et que si on n'était pas là, ils auraient du mal à s'en sortir, en plus. Surtout en cette période, en fait, on est très utile pour eux, en fait.
Bonjour, madame.
Bonjour, jeune homme.
Julien, bénévole à Cœur Résistant. J'ai fait aussi référent, en fait, ce qu'on appelle référent, ceux qui s'occupent, en fait, de gérer un peu le groupe quand j'étais au Relais Graveron, en fait, à Cœur Résistant. Et j'ai arrêté au bout d'un moment. Je suis juste resté bénévole, en fait, et puis voilà.
Du coup, moi, c'était pendant le premier confinement. Je travaillais encore en boulangerie. J'étais vraiment sensible à tout... Enfin, le gaspillage alimentaire, en fait. En boulangerie, il y a beaucoup de gaspillage. Du coup, j'avais vraiment envie d'agir contre ça. Donc, j'ai cherché des associations qui luttaient contre le gaspillage alimentaire. J'ai d'abord contacté les Glaneurs Rennais. Et finalement, j'ai trouvé cet asso sur Internet... Et donc je les ai contactés, ils étaient open pour les bénévoles. Donc j'ai commencé le bénévolat pendant le premier confinement. Et depuis, j'ai jamais quitté l'asso, quoi. Je m'appelle Juliette et je suis bénévole à Cœur Résistant depuis mars dernier, donc ça fait un an.
Ça fait du bien. Alors moi d'autant plus parce que j'avais beaucoup travaillé en restauration et que je retrouve mon rythme de travail. Et je retrouve le travail en équipe et le fait d'avoir, c'est pas du tout comme de la clientèle, mais c'est des gens à satisfaire, en fait. Et c'est des gens qu'on a vraiment besoin. Pas quelqu'un qui va payer 15 euros sa pizza ou, voilà. Enfin, c'est beaucoup plus gratifiant que de nourrir des gens qui sont là pour se faire servir. En fait, c'est pas du tout la même chose. C'est des gens qu'on a besoin. Ouais. Je m'appelle Clotilde. Je suis référente à Cœur Résistant. Maintenant, je suis bénévole.
Ici, non, c'est pas ici que j'ai été poussée, c'est à Cœur Résistant, rue Le Gravois, pour mes gars de la rue. Parce que c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est les gars de la rue. C'est pas ici, ça m'intéresse pas. Okay. Je viens parce que je suis en retraite, je suis toute seule, et que ça m'occupe. Mais autrement, je préférais la rue Le Gravois, où je me sentais plus concernée, puisque moi j'étais à la rue, donc je suis plus concernée par la situation des gens de la rue que par ici, où c'est des gens qui vont déjà au restaurant du cœur, à la Croix-Rouge, qui vont partout et qui sont pas contents parce qu'on n'a rien. Ouais. Donc, mais enfin, je le fais de bon cœur. Je suis aimable avec tout le monde, j'essaie d'être stoïque, quoi.
Alors, c'est Farine, on tourne le sol.
Puis je suis là pour me rendre service à moi-même et puis aux autres.
Bon, vous faites un petit gâteau la semaine prochaine, alors.
Martine? Oui, mon nom français. Ben moi, depuis l'ouverture de Cœur Résistant... Ça fait combien de temps, Cœur Résistant? 6 ans, je crois.
Alors, bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement et la Confédération Bretagne Environnement Nature. Avec le soutien de l'ADEME, la DRAF Bretagne et l'Agence Régionale de Santé.
Et c'est vous qui le dites, la presque quotidienne de Radio U, c'est terminé. Merci à Erwan Seys d'avoir été avec nous pour parler de la manifestation de demain. Le rendez-vous est à midi sur le parvis de la faculté Ségalin. Merci également à Colline Leboulaire d'avoir répondu à nos questions. Colline Leboulaire, elle est créatrice de la boutique en ligne Endo Closet. On remercie également Laurette de nous avoir emmenés dans le quartz occupé et Romain de Syllab pour le reportage que vous venez d'entendre. Syllab, c'est la Radio Campus de Rennes. L'émission sera évidemment disponible en podcast sur Radio U. À suivre, ce sont les sportifs du lundi qui vont débarquer d'ici quelques minutes. Bonne soirée à l'écoute du 101.1.